Il y a quelque temps, des affiches se sont multipliées dans les couloirs de l'ENS. Des affiches frappées de deux mots, Picasso magicien. Quel programme en deux simples mots? Ce programme était celui que s'était fixé En Plastique, qui pour sa première conférence de l'année, avait invité Monsieur Boniel à parler du plus grand des modernes, Picasso. Transistor vous propose une captation de cette conférence, et pour l'introduire, la parole est à Paul Ruellan, président d'En Plastique. Paul, bonjour.
Bonjour.
Alors, sans doute, avant d'entrer dans le vif du sujet, serait-il intéressant que tu nous présentes en quelques mots l'association En Plastique ?
Oui, je pourrais dire quelques mots. Alors, d'abord, merci Nina et merci à Transistor de me proposer donc justement cette retranscription de cette conférence. Alors, deux mots sur En Plastique. En Plastique est une association culturelle des élèves et étudiants de l'ENS. On travaille de concert, notamment avec l'association En Scène et également avec Champs Libres. Et c'est le principe qu'on voudrait mettre en avant d'une vie culturelle partagée. Alors, il s'agit de développer et défendre la jeune création, les projets des élèves, et donc en organisant, par exemple, des expositions, deux temps cette année pour les expositions, un premier temps début février, en partenariat avec l'Institut d'Asie orientale, donc justement sur le projet de faire une exposition autour du Nouvel An lunaire, et donc de la question de la Chine, Chine en mutation. Donc ce sera notre premier projet d'exposition photo début février, et ensuite notre grand projet, la carte blanche, donc qui se déroule tous les ans autour de mai, et donc là, tous les espaces de l'école sont réservés à l'association En Plastique, ce qui nous permet de déployer les projets de la jeune création des élèves de l'école, et pourquoi pas des projets des jeunes lyonnais en général. Par ailleurs, En Plastique propose une galerie précaire tous les mois, une galerie ambulante, collaborative, qu'on a appelée le fil à linge, qui est en ce moment dans le forum Descartes, et qui navigue en fait entre Mono et Descartes avec une participation des élèves. Par ailleurs, En Plastique gère plusieurs ateliers de création, un atelier de photo, un atelier de dessin, un atelier de sculpture créé cette année, justement à la demande des élèves où des professionnels et des artistes peuvent intervenir. Et donc ces ateliers sont ouverts à tous les adhérents et leur fonctionnement dépend des motivations et des désirs de chacun. Enfin, En Plastique souhaite avoir un recul critique et théorique sur la vie des arts, et notamment la vie des arts dans l'école et dans la cité lyonnaise. Et ainsi, on se tourne de plus en plus dans l'association vers des questions d'histoire de l'art, des questions plus générales et des questions de médiation et d'exposition. Donc la revue Acide Plastique a été créée voilà un an, comme Transistor finalement.
Et, on est jumeaux.
On est un peu jumeaux. Et donc se propose de se faire l'écho en fait de la scène artistique lyonnaise avec participation de tous les élèves de l'école s'ils le souhaitent. Cette revue paraît tous les mois. Et toujours dans cette perspective de recul théorique, En Plastique souhaite mettre en place un cycle de conférences justement avec des questions plus générales d'histoire de l'art comme le projet Picasso Magicien.
Donc vraiment une association assez impressionnante par son activité. Donc venons-en à cette conférence, dont on espère qu'elle sera la première d'une longue série. Pourquoi avoir choisi Picasso pour commencer? Pourquoi cet intervenant? Comment cela s'est-il fait?
Alors déjà, Picasso nous interpelle énormément aujourd'hui, puisque à l'aube du XXIe siècle, c'est l'artiste phare de la modernité. L'artiste, on dit le grand génie du XXe siècle, voire le plus grand génie de l'histoire de l'art. Et donc finalement, figure moderne et pionnier par excellence, mais à la fois aussi artiste hybride. Donc il était important pour nous de faire un point sur cette figure mythique de Picasso, de mystère Picasso, comme l'énonce Clouzot dans son film. Et pour cela, il était nécessaire de trouver un esprit capable de rompre la chronologie, de rompre l'approche analytique de la peinture, et le choix de Pierre Boniel s'est imposé. Alors, Pierre Boniel est un ancien professeur d'art plastique au lycée Claude Bernard de Villefranche et ancien professeur également d'histoire et théorie des arts en Cagne, en classe préparatoire littéraire, au lycée du Parc à Lyon. Alors il est à la fois donc enseignant, chercheur infatigable et plasticien lui-même. Pour cette conférence, En Plastique s'est associé à un collectif, le collectif 1011, qui est un collectif basé à la fois sur Lyon et sur Paris, collectif d'anciens cagneux, qui se réunissent assez régulièrement autour de l'enseignement des professeurs de Cagne et propose justement un cycle de conférences dans ce cadre-là.
Mais c'est un collectif pas du tout spécialisé spécifiquement en histoire de l'art.
Non, c'est assez vaste. Il propose des interventions en histoire de l'art, en philosophie. Donc, finalement, Pierre Boniel nous propose ici, dans cette conférence, une approche surtout technique et poétique, à la fois, d'un Picasso magicien exorcisant ses démons par l'acte créateur. Cette méditation esthétique est une véritable réflexion d'histoire de l'art, donc consciente de l'actualité de la critique, lui emboîtant le pas, et pourtant lui faussant compagnie, finalement, empruntant des chemins non parcourus encore, des sentiers de la création, pourquoi pas, toujours avec cette ligne de mire qui est la déclaration de Picasso. Pour moi, peindre un tableau, c'est engager une action dramatique au cours de laquelle la réalité se retrouve déchirée.
Eh bien, merci beaucoup, Paul, pour ces belles paroles. J'espère que tu auras l'occasion de revenir bientôt et souvent dans les studios de Transistor. Et on écoute tout de suite, donc, Picasso Magicien, une conférence organisée par En Plastique avec le savant sur l'art, mais non historien d'art, d'après ses propres termes, Pierre Boniel.
Bonsoir. Comme Paul vient de le dire, donc, que l'objet de cette conférence soit Picasso, on le doit à mes anciens élèves de la CAGNE du lycée du Parc. Et c'est par-delà l'expression du désir de m'entendre encore, et comment ne pas y être sensible, le désir de m'entendre sur la question qui est au programme du concours des ENS, et donc en quelque sorte une façon de me voir ne pas raccrocher tout à fait. Là aussi peut-être faut-il les en remercier. Donc comme Paul l'a dit, il me semble que le titre « Historien de l'art » qui figure sur les affiches et qui sont sous la responsabilité d'En Plastique est immérité et assurément. Et doublement ce soir, quand le propos que j'aimerais développer relèverait davantage d'une méditation interrogative. C'est d'ailleurs un peu le titre, à caractère peut-être énigmatique, qui est donné à ce propos. Ça relèverait davantage de cette forme-là que de l'histoire stricto sensu. Maddy Meynier, donc historienne de l'art du XXe siècle, me confiait, c'était il y a 20 ans environ, et je crois me souvenir que c'était au sortir de l'atelier du sculpteur Maxime Descombins, qu'il ne devait pas être question du pourquoi dans l'histoire de l'art, que l'historien d'art n'avait pas à se poser la question du pourquoi, si l'artiste se la pose, et c'était ce que rabâchait Descombins à l'époque et à ce moment-là, et que seulement le quoi et le comment étaient du ressort de l'historien d'art. Je ne suis pas sûr de ne pas rendre poreuse la frontière entre le quoi, le comment et le pourquoi ce soir. Alors on a pu s'interroger sur ce choix de Picasso pour la grande question monographique au concours après Ingres, Raphaël, Rembrandt. Étonnement qui naît de l'idée que pour un tel concours, le programme se doit d'être classique. Classique comme le sont Rembrandt, Raphaël, Ingres. Mais notons déjà que classique, ces trois-là ne le sont pas sous le même rapport. De même, ce n'est pas exactement la même chose que de cerner en Picasso un classique ou de cerner le Picasso classique, celui de la période romaine, avec Parade, 1917 et après, le Picasso de la période ingresque, celui qu'avec précipitation et parfois légèreté, on a voulu enrôler sous la bannière du retour à l'ordre. Il faut retourner à la définition de Gadamer dans Vérité et méthode. Lorsque nous qualifions une œuvre de classique, c'est dans la conscience de sa permanence, de sa signification impérissable, indépendante de toute circonstance temporelle, dans une sorte de présence intemporelle, contemporaine de tout présent. Bon, à présent, et on va peut-être justement ouvrir dans le présent pour que les arrivants puissent s'installer. Je les salue, d'autant plus que j'en vois qui viennent de loin, de Paris, et que je les en remercie. Donc le propos liminaire qui n'a pas pu être donné, l'hymen, le seuil au seuil, comme Paul l'annonçait, il se fera en conclusion. Merci Aymeric et Garance d'être ici, et merci donc pour saluer la 1011 dont il a été question tout à l'heure. Voilà, donc on en était, je ne sais pas si ça mérite qu'on y revienne à cette définition que donne Gadamer d'une œuvre qui peut prétendre au qualificatif de classique. Lorsque nous la qualifions de classique, c'est dans la conscience de sa permanence, de sa signification impérissable, indépendante de toute circonstance temporelle, dans une sorte de présence intemporelle, contemporaine de tout présent. Imaginez ça en langue allemande et vous verrez, ce sera encore beaucoup plus savoureux. Il était question de Lucrèce et des Rerum Natura, précisément, texte à la fois classique et actuel, dans une émission au cours de laquelle Paul Venn, invité, donna ce jugement. Lucrèce communique à ses lecteurs à travers une physique élucubrante ce que j'appellerais, faute de mieux pour commencer, un sentiment océanique. Et avec quelle puissance ! L'Énéide de Virgile est une œuvre au second degré. Avec Lucrèce, on est directement en présence d'un homme qui nous parle, d'homme à homme, qui nous dévoile sa pensée. Et Paul Venn d'ajouter, c'est du Rembrandt, c'est pas du Raphaël. Au point qu'on peut se demander s'il n'a pas eu une petite fille qui préparait les mêmes concours que certains d'entre vous. Mais on peut se poser la question pour Picasso et on se la posera. Est-ce que c'est du Rembrandt ou bien du Raphaël ? Pardon, là, on est dans nos essais. Alors, on n'a pas dit une chose et il faut que nous la... Il faut éteindre Paul. Il faut que nous prévenions et qu'on présente des excuses, mais qui doivent être répercutées sur les murs de cette auguste maison pour aller vers les services techniques, c'est-à-dire que le support visuel de la conférence, pour des raisons d'incompatibilité entre diapositive et ordinateur, avec l'installation qui est ici, donc tout est rapatrié sur l'ordinateur. Moi, je vois des belles images, mais vous ne les voyez pas, surtout quand viendront les images en couleur. Bon, pour le noir et blanc, vous voyez une irisation du vert et du violet, ce n'est pas très, très grave. Et pour les diapositives, c'est assez rédhibitoire. Et elles joueront davantage, et je m'en excuse, et Paul s'en excuse doublement. Donc, elles joueront davantage le rôle d'un aide-mémoire pour appeler dans votre mémoire les œuvres qui sont connues, mais pas toutes, de Picasso, et ça sera un peu gênant au détour de certaines analyses que j'aimerais glisser dans le propos ce soir. Alors, il y avait en moment d'introduction cette photo assez savoureuse de Picasso en compagnie de René Char, avec dans l'ouvrage d'Éric Marty, la légende « Le sorcier abuse, le magicien mesure », tiré de Picasso sous les vents étésiens, la préface qui fut demandée à René Char pour l'exposition Picasso, préface pendant l'écriture de laquelle on a eu nouvelle du décès de Picasso le 8 avril 1973. On se posera la question, est-ce du Rembrandt ou du Raphaël pour Picasso ? Et c'est assez piquant que l'un et l'autre aient été l'objet d'attention de la part de Picasso qui les a convoqués tour à tour et avec quelle verve ? Dans Les Mousquetaires, vous voyez ici, ça passe à peu près, Le Mousquetaire à la pipe, c'est de 1968, Malraux visitant Notre-Dame de Vie à Mougins, interroge Jacqueline Picasso et Les Mousquetaires, ça vient de Velázquez, et Jacqueline rectifie, non, de Rembrandt. Rembrandt, qui est l'objet aussi de ces portraits charges à la limite de la caricature. Et ici, j'en propose deux qui viennent de la suite Volard. Donc, ce sont des eaux-fortes sur papier vergé. Rembrandt et tête de femme. Rembrandt et femme au voile. Et pour Raphaël, la fameuse série des gravures érotiques de Raphaël et la Fornarina, dont je n'ai fait qu'un choix le plus pudique possible. Il n'y en a que six. On peut zoomer sur l'un, ce qui nous donne quand même le plaisir de voir Léon X, le pape, sur son pot, en train d'assister aux ébats de Raphaël et de sa maîtresse, pendant qu'ils sont aussi espionnés par quelqu'un qui est sous le tapis, comme vous l'avez repéré. La question prend tout son sens. Elle est la suivante. Avec le corpus picassien, a-t-on affaire à une œuvre au premier ou au second degré, pour prendre l'expression de Paul Veyne? D'emblée, cela nous projette, dans le noir déjà, hein, mais c'est fait exprès, au cœur de l'œuvre, dans son caractère double et, disons-le, antagoniste, d'œuvre autobiographique, et il en est peu qu'il le soit autant que celle de Picasso, et d'œuvre nourrie des maîtres. Si l'œuvre picassien est saturée de données autobiographiques, si la vie intime du peintre s'y fait entendre avec une pression constante, que ce soit directement ou par le biais de l'allégorie, elle regorge de références, d'emprunts, de citations. Les antiques, Raphaël, le Gréco, Poussin, Le Nain, Velasquez, Goya, Ingres, Courbet, Corot, Manet, Cézanne, Degas, Renoir, la liste est longue. Prendre pour objet d'étude l'œuvre de Picasso conduit à questionner la relation art-vie. Paul Veyne parla pour le Denatura de Lucrèce de sentiments océaniques. Or, s'il est une qualité picturale, même mieux un caractère pictural, totalement absent chez Picasso, dont la peinture de Picasso est entièrement dépourvue, c'est bien ce sentiment océanique dans le rapport au monde qu'instaure la peinture. Si fort soit-il chez Picasso, le monde n'est pas offert, n'est pas ouvert à la présence comme il l'est chez les Vénitiens, chez le Lorrain, chez Poussin, Velasquez, comme il l'est chez Monet ou Corot, et dans l'œuvre de Cézanne éminemment, ou dans la peinture de Bonnard, de Matisse, ou de Braque, pour regarder ses contemporains. Sans doute devrons-nous aller de paradoxe en paradoxe. Premier, peinture, totalement construite par la maîtrise du langage plastique, du langage pictural, et transcription véhémente souvent, dans l'urgence toujours, d'une biographie. Dégagement hors du narratif vers l'iconique. C'est à la suite du harem, été 1906, qui est la première forme que prend la réponse de Picasso à deux provocations. Henri Cochet, la première, vous savez, c'est l'exposition, 40 ans à peu près après son achèvement, du bain turc d'Ingres, et réponse aussi à la réponse que Matisse a fait à Ingres. La réponse de Matisse, on le sait, c'est le bonheur de vivre, où le nu se trouve dans la grâce idyllique, pastorale du plein air, quand Picasso, par provocation volontairement, l'enferme et à l'intérieur de la maison close. Le harem d'abord, et ensuite son grand projet, qu'il appelle lui et qu'il appellera longtemps le bordel, qui sera même le bordel d'Avignon avant qu'il prenne le titre de demoiselle d'Avignon. Passage du narratif à l'iconique, puisque bon, certains d'entre vous le savent bien sûr, le projet premier était de montrer un étudiant en médecine qui arrive donc parmi les filles au bordel, et qui trouve un marin, puisque nous sommes dans un bordel pour marins de Barcelone, un marin attablé avec un casse-croûte assez vulgaire au milieu des filles déshabillées. Bon, alors après, il y a toute. C'est une exposition, c'est tout le travail qu'un Pierre Dex a fait sur ce moment crucial dans l'histoire de l'art du XXe siècle, qui conduit. Alors, soyez pas trop effrayés par ce que devient l'image superbe, mais moi je suis le seul à la voir superbe, et vous allez voir un affreux barbouillage épouvantable. C'est que la lampe est en train de mourir. Je souhaite simplement qu'elle tienne encore une bonne heure. Là au-dessus de vos têtes. Donc, dans Les Demoiselles d'Avignon, Picasso se livre à un face-à-face, dépouillant toute anecdote et toute histoire. Nous sommes dans l'iconique. N'empêche que cette iconique, au bout du compte, est telle que nous sommes privés de toute posture contemplative. Le face-à-face est d'une violence telle qu'il ne permet pas cette dimension d'ouverture. J'étais en train d'énumérer les paradoxes après celui d'une maîtrise du langage et d'une véhémence à traduire ce que Picasso appelait lui-même son journal intime dans toute son œuvre, d'où l'importance de toutes les dates qui figurent sur les tableaux, les dessins, les gravures. Un autre, non moins complexe, est la sollicitation du mythe. Ici, Minotaure est jument morte devant une grotte face à une jeune fille au voile, où les histoires de Marie-Thérèse, d'Aura, qui est apparue à la fin 1935, sont déjà présentes, sans oublier Olga en arrière-plan, et bien sûr Pablo dans le rôle du Minotaure. Alors, la sollicitation du mythe. Restons avec le Minotaure pour cette truculente scène bachique qui appartient donc à la suite Volard. Complexe la question du mythe, on y viendra sur la fin de la conférence, tellement forte et quasi omniprésente dans les années 30. Paradoxe aussi que la présence dans la collection personnelle de Picasso du Château Noir, alors là, qui devient très orageux, de Cézanne, des peintures, justement, le plus empreinte du sentiment océanique. Et pour comprendre ce dernier paradoxe, il faut suivre Malraux, arpentant en compagnie de Jacqueline les salles et couloirs de Notre-Dame de Vie, pour retourner face vers l'avant et redécouvrir les tableaux, ceux de Picasso, et ceux de sa collection. On trouve ça dans La tête d'obsidienne, qui est repris dans Le miroir des limbes 2, La corde et les souris, au chapitre 5. Malraux y écrit, je lis, « Sa collection ne lui ressemble pas. Il m'avait dit il y a 30 ans, « Ce que j'aime et ce que je veux avoir chez moi, ce n'est pas la même chose. Je suis un peintre. Je suis aussi un amateur qui me donne des conseils quand je peins. Mauvais conseils. » Malraux poursuit. Il a peint parfois avec sa collection, parfois contre elle. Quoi de commun entre la sérénité de son Matisse, alors vous ne le verrez pas serein, on le connaît, hein, c'est Nature morte aux oranges de 1912, un des chefs-d'œuvre justement des collections de Picasso qui sont maintenant au musée Picasso. Quoi de commun entre la sérénité de son Matisse, même de son Château Noir, et son conflit incurable avec la nature. Et Malraux cite Picasso, « Il faut bien qu'elle existe, la nature, pour qu'on puisse la violer. » Pour aller droit à la question, et droit dans le noir, nouveau, à la question « Fonction de la peinture », le sous-titre de mon propos, je me demanderais si l'explication orphique de la terre, dont Mallarmé fit le seul devoir du poète, peut s'appliquer à Picasso. Je répondrai prudemment, mais hardiment, oui, si on retire ce que j'appellerai une entente heideggerienne du précepte de Mallarmé. Pour Picasso, l'homme est indissolublement l'expliquant et l'expliqué. Et c'est Orphée. Reprenons la lecture de Malraux un peu plus loin. Je pense à la grande charrue devant laquelle Braque est mort. Comment le mot « art », dont l'esthétisme fausse d'ailleurs le sens, exprime-t-il à la fois l'acte créateur de Picasso et celui de ses rivaux ? Quelle relation entre sa dernière exposition au Palais des Papes, celle de Braque au Louvre, celle d'étoiles inachevées de Rouault au Salon Carré, le message biblique de Chagall à Nice ? L'accord fondamental de Braque avec le cosmos, Malraux rappelle en parenthèse « cosmos veut dire ordre », l'accord fondamental de Braque avec le cosmos, ces tableaux affectueusement liés à la peinture, ne sont pas réduits au silence par la voix la plus insoumise que l'art ait connue. Il y aurait beaucoup à dire sur le rapport Braque-Picasso, j'y reviendrai deux à trois fois. N'a-t-on pas dit qu'au sein du cubisme, Braque battait la mesure et Picasso la démesure ? Pierre Dex affirme que lorsque les tableaux de Braque et de Picasso sont accrochés côte à côte, même quand il s'agit de peintures réalisées au moment de la cordée, ici on a choisi deux œuvres qui ont été faites dans le même été 1911, qui ont été faites au même lieu dans les vacances à Céret, où se trouvent à ce moment-là ensemble Braque et Picasso. Donc Pierre Dex soutient, et là il faut vraiment avoir un œil de connaisseur, c'est vrai, que on reconnaît les Picasso. Les peintures de Braque ont une qualité picturale. Pierre Dex a recours au qualificatif dont utilisent les historiens d'art américains de painterly, une sensibilité picturale, quand Picasso va droit au but. Disons-le autrement, Braque cherche les passages, les voies praticables, tandis que Picasso va droit au but, mais sans crainte parfois de brûler les ponts derrière lui. La différence n'est pas que de facture ou de style. Ce n'est pas qu'une question de sensibilité, de tempérament. C'est le rapport au même, c'est le rapport, pardon, au monde qui n'est pas le même, et partant, ce que la peinture vient faire dans ce rapport. Tout compte fait, Chagall voit juste quand il confie à Françoise Gillot. Quel génie ce Picasso! Dommage qu'il ne fasse pas de peinture. Que fit donc Picasso s'il n'a pas fait de peinture? Ou, disons mieux, qu'est-ce que Picasso fit de la peinture? La réponse tient en un mot, un exorcisme. À plusieurs reprises, Picasso le déclara. Et clairvoyant, il identifia en cela ce qui l'éloignait de Braque. Je le cite. « C'est aussi ça qui m'a séparé de Braque. Il aimait les nègres, c'est-à-dire, comme on les appelle, la statuaire d'Afrique noire. Mais je vous ai dit, parce qu'ils étaient de bonnes sculptures. Il n'en a jamais eu un peu peur. » Les exorcismes ne l'intéressaient pas, parce qu'il ne ressentait pas ce que j'ai appelé tout, ou la vie, je ne sais quoi, la terre, ce qui nous entoure, ce qui n'est pas nous. Il ne le trouvait pas hostile, ni même, figurez-vous, étranger. Il a toujours été chez lui, encore maintenant. Il ne comprend pas du tout ces choses-là. Il n'est pas superstitieux. Mais, comme Picasso l'a dit lui-même, on n'est pas sorcier toute la journée. Comment pourrait-on vivre ? Et c'est ainsi que prennent place les peintures qui montrent le plus grand savoir. Les portraits d'Olga, c'est Olga dans le fauteuil, 1917, ou le portrait de portrait dans lequel le travail d'après photo reprend la leçon d'Ingres, ou encore le portrait de 1923, de la même Olga, tout tableau que le peintre place sur ce versant. Ou bien Sarah Murphy, qui inspire à Picasso la plastique ferme d'une beauté classique. C'est aussi que la dualité, peinture comme journal intime, peinture savante nourrie des maîtres, ne se déploie pas hors du souci constant de construction plastique que réaffirme avec force un passage du livre de Françoise Gillot et Carlton Lake, « Vivre avec Picasso ». Notons, et c'est essentiel, que l'élaboration plastique n'est en aucune façon pour Picasso une recherche d'équilibre, de pureté ou de perfection, mais violence, drame, déséquilibre. Voyez, si vous avez en mémoire telle séquence du film de Clouzot, Le Mystère Picasso, on voit que le mouvement qui fait pousser toujours plus loin compte davantage que le résultat heureux, harmonieux. Le dessinateur n'hésite pas à tout remettre en jeu, quitte à tout gâcher. Et ceci qui est très net. On voit Picasso commencer avec un dessin dont l'autorité fait songer à Matisse. Mais un Matisse au terme de sa série. La suite Volard nous vaudra de connaître cette fulgurance des commencements. Mais d'autres plaques témoigneront de la poursuite, de la reprise jusqu'à la surcharge. Et dans Rembrandt à la palette. J'ai parlé de maîtrise. Faisons-nous avec Françoise Gillot, qui le fut d'ailleurs, élève du maître Picasso. Et là, donc il faudra fermer les yeux. D'ailleurs, on peut le faire avec le noir. Puisque le tableau, nous ne l'avons pas, c'est très intéressant de le reconstruire à partir du texte que reproduit Françoise Gillot, qui a pris des notes très scrupuleusement de Picasso, je dirais à la fois son maître et son amant, son compagnon et le père de ses enfants ensuite. Sur un chevalet se trouvait une toile qu'il avait dû commencer un jour ou deux plus tôt, puis laisser de côté. Il y avait une grosse tache ronde, comme un soleil vert, au centre de la toile. Une forme triangulaire violette, venue du coin inférieur gauche, parcourait toute cette toile pour se terminer en pointe, juste au-dessus du soleil vert. Une épaisse ligne noire, sorte de V légèrement arrondie, reliait une forme à l'autre en traversant les deux. Je lui demandais ce que ce tableau allait devenir. « C'est déjà une nature morte, » répondit-il. « C'est l'idée picturale. Il importe peu que l'élément principal devienne un verre ou une bouteille. Ça, ce n'est qu'un détail. » À certains moments, la réalité est toute proche. À d'autres, elle s'éloigne. La marée monte ou descend, mais la mer est toujours là. Ce que vous voyez maintenant, c'est la première donnée. La tache de vert, la poussée de violet, et cette ligne noire qui les joint. Ces éléments luttent entre eux, et l'intrigue est partout. Petite parenthèse, commentaire, c'est étonnant. On le croirait en train de commenter un Kandinsky. Mais c'est un Picasso, et c'est un Picasso en train de se faire. Et le ton aussi étonne. Ce sera plus net un peu plus loin, mais déjà, ce « et l'intrigue est partout », je parle sous l'autorité de Paul ici, ça sonne, après la lutte héraclitéenne des éléments, un peu comme du René Char, « hormis là, nul endroit, la disgrâce est partout ». Ici, c'est l'intrigue. La tache verte, écoutons Picasso, la tache verte, par exemple, tend à grossir, à s'étendre loin du centre. Elle n'est pas contenue par une ligne ou par une forme. La couleur ne doit jamais l'être. Elle est là pour rayonner. Elle est dynamique de nature. De l'autre côté, le violet, d'abord large, s'affine jusqu'à la pointe. Outre la lutte entre les formes du vert et du violet, il y a lutte entre les couleurs elles-mêmes. Juste comme il y a lutte entre la ligne droite et la courbe. Dans chaque cas, elles sont étrangères l'une à l'autre. Maintenant, il faut que j'accuse le contraste. Je lui ai demandé, poursuit Françoise Gillot, si d'après lui, le vert était équilibré par le violet. « Ce n'est pas là le problème, dit-il. Je n'ai pas besoin de savoir cela. Je n'essaie pas de rendre cette première donnée plus cohérente. Pour l'instant, je la veux troublante. Après, je commencerai à construire, mais non pas à harmoniser. » Je la veux troublante. C'est le moment de la fermentation. le moment de l'immersion dans une couche féconde d'obscurité, de non-savoir, garante d'une cohérence plus profonde que toute tentative d'harmonisation. Picasso à nouveau. Jusqu'ici, voyez-vous, c'était instinctif. Maintenant, il faut que j'établisse quelque chose de bien plus audacieux. Le problème, c'est comment secouer cette première donnée? Comment la rendre unique? Pas simplement neuve, mais dépouillée et lacérante. Pour moi, peindre un tableau, c'est engager une action dramatique au cours de laquelle la réalité se trouve déchirée. Ce drame l'emporte sur toute autre considération. L'acte plastique n'est que secondaire, en ce qui me concerne. Ce qui compte, c'est le drame de l'acte lui-même, le moment où l'univers s'échappe pour rencontrer sa propre destruction. On pourrait imaginer Picasso poète, il l'a été, vous savez qu'il a écrit, il a écrit une pièce de théâtre, de tout cela on n'aura pas le temps de parler ce soir, pas plus que de sa sculpture, il faudrait plusieurs séances pour parler de la sculpture de Picasso, c'est peut-être avec la gravure là où il a atteint le sommet. Engager une action dramatique au cours de laquelle la réalité se trouve déchirée. Ça définirait assez bien et assez justement l'exorcisme. D'ailleurs, je remarque, plus on lit Picasso, plus on découvre la récurrence chez lui du terme « déchiré ». Quand une femme rentre dans ma vie, tout est déchiré. Elle déchire tout, à commencer par ma peinture, dit-il. Brigitte Baire, à qui nous devons tant pour la connaissance de Picasso graveur et du dernier Picasso en particulier, nomme citation libre les références emprunts et véritables citations qui affluent dans la production des ultimes années de Picasso. Et Brigitte Baire fait cela pour les distinguer de l'effort analytique que Picasso déploie quand il reprend les Ménines, les femmes d'Alger ou, comme ici sur l'écran, le déjeuner sur l'herbe. Autant de séries dans lesquelles Picasso s'applique à démonter, analyser, montrer comment c'est fait. Vous repérez que Picasso s'est lui-même intégré ici dans le déjeuner. Mais pourquoi tant de citations dans l'œuvre des dernières années de sa vie, s'interroge Brigitte Baire. Si on regarde un peu attentivement les œuvres des dernières années de Picasso, on ne peut éviter d'être frappé par cet aspect d'énumération. Ses propres fantasmes et personnages de toujours, son œuvre de peintre donc, et puis les peintres et leurs œuvres traitées à la Picasso. Il semble bien, mais peut-être est-ce simple divagation de notre part, écrit Brigitte Baire, que l'artiste convoque autour de lui, comme par des opérations magiques, tout ce à quoi il tient, de même qu'il essaie de nier le vide par un travail incessant, à son âge. L'objet perdu, ou en train de se perdre, qu'est-ce donc, sinon la vie? Le vide, le néant, n'est-ce pas la mort? Mais en 1908, on trouve cette nature morte à la tête de mort qui sert d'affiche pour la conférence de ce soir. Elle date de 1908. Dans cette nature morte, la proximité du crâne et des pinceaux est lourde du sens des vanités. Mais l'exercice n'est pas extérieur. Toujours la mort rôde. Et la vivacité du rose tout autour de la tête de mort marque cette grande opposition, vie-mort. Le corps féminin n'est pas loin non plus. Dans le cadre, en haut à droite, donc il se détache sur le bleu, la forme en anse est celle que fait le bras levé et replié d'un nu, qu'on trouve par exemple dans cette série de bois gravés sur le thème du nu debout, qu'on retrouve aussi dans les nus agenouillés, ou dans l'un des états du tableau, les trois femmes, peinture qui marque l'exacte charnière entre période nègre et le cézannisme de Picasso. Je vous à peine la projeter avant la conférence, on a vu qu'il n'en restait rien, il n'en reste même pas trois, il n'y en a plus qu'une, je crois, avec l'ampoule que nous avons là-haut. Ouais, donc c'était effroyable. Bien. Dans cette crue de citations des dernières années, nous trouvons les œuvres des aînés, mais les peintres eux-mêmes sont là. Ce sont les figures tutélaires convoquées. L'artiste barbu est un archétype. Oui, mais pas seulement. Car Picasso est précis. Nous les identifions. Raphaël, Rembrandt, Renoir, Cézanne ici, par la référence au portrait de Vallier. Matisse, par le montage de la manche gonflée et brodée de motifs de la blouse roumaine. Mais Renoir, surtout, Renoir âgé, dont Picasso a dessiné le portrait en 1919, c'est-à-dire à la mort de Renoir, d'après la photographie qu'il possédait. On repère bien les poignets complètement déformés par l'arthrose dont était affecté Renoir à la fin de sa vie et qui prennent une allure vraiment informe, reprise par, par Picasso et allant jusqu'à une sorte d'élision même de la forme anatomique dans le vieil homme assis avec le chapeau. Et à droite, ce voyeur barbu, chenu, c'est Degas, à la maison Tellier, une amplification érotique comme réponse à la mort imminente. L'art, le sexe et la mort sont partie liées. Et la peinture porte le cri des Ross dans une violente, paroxystique poussée conjuratoire. Mais cette fonction d'exorcisme de la peinture est présente dès le début, du moins dès le séjour parisien. Ici, au Lapin Agile, où l'on voit Picasso, en arlequin, son alter ego, aux côtés de Germaine, la séductrice. La peinture comme exorcisme permet d'affronter la mort, le sexe, ou mieux dit, se prémunir contre ses dangers, se protéger contre la mort, et contre la mort dans et par le sexe. Extrême ambivalence de la femme, attirance, défiance. Le danger est double. Celui des maladies vénériennes, véritable obsession, tant celles-ci font des ravages à l'époque. Celui aussi de la perte de la liberté, de l'esclavage, de qui est victime d'une séductrice, et c'est la trace du traumatisme de la mort de Casagemas. Peinture sur le thème de la vie, où l'on voit entre l'esquisse et le tableau, que dans le couple, sur l'esquisse c'est Picasso et sur le tableau c'est Casagemas. La peinture, qui est l'instrument du père, on le sait, hein, est utilisée comme instrument du meurtre du père. Cette transgression se fait par et dans la peinture. Remarquons que le père de Picasso, hein, Ruiz, José Ruiz, prête ses traits, alors là on voit pas bien, le tableau est plus clair, il est reproduit dans le bouquin de William Rubin, Picasso et le portrait. Le père de Picasso, est-ce conscient ou non de la part de Pablo, prête ses traits au sculpteur dans plusieurs eaux-fortes de la suite Volard, dont on voit ici les détails et maintenant les gravures en plein format. C'est l'atelier du sculpteur, un élément central de la suite Volard. La suite Volard, c'est cet ensemble de 100 gravures faites entre 1930 et 1937, avec grosso modo quatre parties, miscellanées, c'est des mélanges au début, puis le thème de l'atelier du sculpteur, puis un petit intermède avec trois ou quatre eaux-fortes sur le thème de Rembrandt, et puis enfin le Minotaure. La leçon des primitifs, c'est certes une leçon de synthèse plastique, d'abréviation formelle. On a coutume de voir et de ne voir que, de voir dans l'art des primitifs qu'un ensemble de ressources plastiques dont Picasso ainsi que Braque, Derain, Matisse ont usé dans l'invention d'un nouveau langage pictural et sculptural. Cette dimension plastique est indéniable. C'est d'abord intérêt pour la statuaire archaïque ibérique, celle d'Osuna, ici avec l'homme attaqué par un lion, et ses formes, ses simplifications de formes en losange des yeux notamment, et avec la tête qui est en bas à gauche de Cerro de los Santos, et on voit bien, on ne voit pas bien, non, je regarde trop l'écran ici, comment Picasso a de manière littérale repris dans son bois taillé de l'été 1907 les formes de cheveux en franges assez systématiques qui sont sur la partie gauche, celle qui n'est pas endommagée, de la tête de Cerro de los Santos. On les voit un petit peu mieux ici dans le tournant de l'ombre sur cette pierre de 21 cm de haut. Et l'on voit, d'ailleurs il y a ici quelque chose qui est un peu contingent au départ, mais dont on trouve une trace. Vous voyez par exemple, et il y en aura un certain nombre, on va les passer rapidement, de recherches de Picasso sur le thème du visage, avec un œil qui est privilégié par rapport à l'autre. Alors il se trouve que cette tête ibérique que Picasso a vue et observée se trouvait endommagée sur la moitié du visage, et donc un seul œil était présent dans l'œuvre telle qu'elle est aujourd'hui. Remarquez aussi que dans cette sculpture archaïque, ibérique, l'oreille est très grande et que Picasso, dans la recherche pour la tête de l'étudiant de médecine qui rentre dans le bordel pour les recherches de Mesdemoiselles d'Avignon, ici, dans cette étape, on a une oreille qui vient au niveau temporal au-dessus de l'œil. Dans cette simplification, dans l'autoportrait, dans les études pour autoportrait de 1906, et qu'on retrouve aussi, bien sûr, dans l'autoportrait à la palette de la même année. Le nu rouge montre toujours ce même souci, et en même temps que, et ça c'est le travail remarquable qu'Anne Baldassari a fait, de mettre en relation toutes les photographies que Picasso avait, de reportages ethnographiques, des photographies notamment de Fortier et d'autres, comme ici par exemple, Edmond Fortier, la jeune fille Serrère du Sénégal. Il faut voir que ces cartes postales ont été faites 1905, 1906 et que Picasso immédiatement les a achetées et les a réutilisées dans son travail. On verra comment Picasso finalement crée ses tableaux à partir de combinaisons. Il y a la réalité, il y a les maîtres, il y a des photographies. On a vu celle de Renoir. Ça prendra un tour particulier dans le moment des années 20, le moment classique. Mais déjà, au moment, on peut dire, de la période teintée d'archaïsme, et ça n'est plus l'archaïsme on pourrait dire gauguinien, hein, issu de Gauguin, mais celui qui conduit au moment nègre chez Picasso, eh bien, il y a ce travail à partir de ces collections de cartes postales ethnographiques. On voit par exemple ici comment Fortier, lorsqu'il fait ses photographies, et la photographie ici de cette femme malinquée avec les bras derrière le dos, enfin les bras tenus avec un bâton, c'était d'ailleurs à la limite un petit peu équivoque parce que c'était une façon peu naturelle de faire poser la personne pour faire saillir les seins, tout simplement. Et donc ces éléments-là sont donc rattachés à des esquisses de Picasso, assez différentes d'ailleurs, entre la géométrisation et le travail par les valeurs qui donnent le volume dans l'étude de tête inférieure, dont on voit bien la lumière sur le front héritée de la photographie de Fortier, et l'autre élément. Bien, donc, utilisation, évidemment, de tout ce répertoire pour ce que j'appellerais une sorte de culture de la forme, hein, pour emprunter le mot à Mondrian qui dira « la culture de la forme est arrivée à maturité hein, », mais pour aller vers les buts que Mondrian se fixe pour Picasso et qu'on se remémore comment Picasso se démarque, et on l'a entendu il y a quelques minutes de Braque sur ce point, pour Picasso, la leçon de l'art nègre et océanien, la leçon des primitifs, excède le seul caractère plastique. En témoigne ce que bien plus tard, Françoise Gillot rapportera Après l'avoir observé peindre, c'était rituel chez Picasso, de 2h de l'après-midi à 11h du soir, et lorsque la lumière ayant cessé, la lumière du jour ayant cessé, il braque deux projecteurs sur la toile et que tout disparaissait dans l'ombre, hormis la toile. C'est l'activité, ou plutôt l'acte, qui compte quand l'artiste se tient au plus près de son monde intérieur, quand il s'abstrait de tout ce qui est extérieur, de ce que la raison commande, quand il force dans cet acte et par cet acte les portes de corne et d'ivoire de son subconscient, hein, pour reprendre l'expression de Nerval que vous l'avez entendu. Picasso dit exactement ceci quand Françoise lui pose la question. Il faut que l'obscurité soit complète autour de la toile pour que le peintre soit hypnotisé par son travail et peigne à peu près comme s'il était en transe. Il doit rester le plus près possible de son monde intérieur s'il veut transcender les limites que sa raison tente continuellement de lui imposer. Transcender les limites que sa raison tente continuellement de lui imposer. Transcender la raison, et j'ajouterai, et injurier la beauté. Picasso. Qu'est-ce que la beauté, en fait ? Elle n'existe pas. Je n'apprécie rien. Je ne trouve rien agréable. J'aime ou je hais. Quand j'aime une femme, cela déchire tout, et en particulier ma peinture, où l'on voit réaffirmer cette réversibilité, cette communication et réversibilité entre la vie intime, psychique et la création. Et on comprend que Breton ait compté Picasso dans les surréalistes et qu'il ait fait du tableau. Alors là, vous ne le verrez pas, je crois, tellement il apparaîtra sombre, qu'il ait fait du tableau, il est assez souvent reproduit, hein, femme en chemise dans un fauteuil, 1913-14, l'emblème de la peinture surréaliste, au même titre, écrit Pierre Dex, que les chants de Maldoror de Lautréamont pour la littérature. Breton en rajoute et pousse le tableau de Picasso vers le merveilleux. Il va jusqu'à réintituler le tableau « La femme au sein d'or ». Injurier la beauté. On ignore souvent que Picasso a beaucoup fréquenté l'œuvre de Rimbaud, qu'il citait fréquemment, et que Rimbaud ait parlé d'une saison en enfer comme de son livre nègre, voilà qui a pu frapper Picasso. Mais quel sens donner au primitivisme de Picasso ? C'est la question de la fonction, toujours. Si on voulait jargonner un peu, on dirait la place dans une économie, un terme au processus de création. William Rubin a exposé comment la défaite symbolique durable du père de Picasso ne pouvait être obtenu par Pablo qu'en rejetant l'art qui véhiculait les valeurs de ce père, soit en sacrifiant le talent qui était, je cite, l'aune et l'épine dorsale de la peinture de salon. Rubin poursuit, en optant pour le primitivisme en 1906, Picasso court-circuitait la transmission de ses conventions héréditaires. Et une année passée à explorer des antécédents esthétiques de plus en plus éloignés et étrangers lui permit de redécouvrir par lui-même l'authenticité picturale. Fin de citation. Ce chemin va de Gauguin, hein, qu'il a connu assez tôt, même avant, il a connu l'œuvre de Gauguin avant la mort de Gauguin et donc avant la grande rétrospective qui a suivi le décès de Gauguin, par son compagnon qui était graveur et qui connaissait directement Gauguin. Douriot. Ce chemin va de Gauguin à l'art archaïque, puis à l'art primitif, sculpture africaine et océanienne. Et voici une vue d'époque, 1895, partielle, de la salle océanienne du musée d'ethnographie du Trocadéro. Le choc, la révélation par quoi ce qui était encore confus, obscur, devient tout à fait clair, tout à coup clair, aveuglant, se produira en juin 1907, au musée d'ethnographie du Trocadéro. C'est alors qu'est fixé ce à quoi le destinait sa complexion psychosexuelle, faite, je cite Rubin, de sa crainte superstitieuse et excessive de la mort, et d'une rivalité, d'une rivalité ancienne avec son père. Reprenons le livre de Françoise Gillot, là où nous l'avons laissé. Qu'est-ce que la beauté, en fait ? Elle n'existe pas. C'est dans ce paragraphe qu'est relatée l'expérience de juin 1907. Picasso. Quand j'ai découvert l'art nègre, il y a 40 ans, et que j'ai peint ce qu'on appelle mon époque nègre, c'était pour m'opposer à ce qu'on appelait beauté dans les musées. À ce moment-là, pour la plupart des gens, un masque nègre n'était qu'un objet ethnographique. Quand je me suis rendu pour la première fois avec Derain au musée du Trocadéro, une odeur de moisi et d'abandon m'a saisi à la gorge. J'étais si déprimé que j'aurais voulu partir tout de suite. Mais je me suis forcé à rester, à examiner ces masques, tous ces objets que des hommes avaient exécutés dans un dessein sacré, magique, pour qu'ils servent d'intermédiaire entre eux et les forces inconnues, hostiles, qui les entouraient, tâchant ainsi de surmonter leur frayeur en leur donnant couleur et forme. Et alors, j'ai compris que c'était le sens même de la peinture. Ce n'est pas un processus esthétique. C'est une forme de magie qui s'interpose entre l'univers hostile et nous. Une façon de saisir le pouvoir en imposant une forme à nos terreurs comme à nos désirs. Une façon de saisir le pouvoir en imposant une forme à nos terreurs comme à nos désirs. Le jour où j'ai compris cela, j'ai su que j'avais trouvé mon chemin. Cela posé, reste la question de la mise en œuvre, la question du chemin de la création picturale. Les rapprochements opérés par Anne Baldassari entre les œuvres du début de la période de Gossol et des photos trouvées dans les archives de Picasso prises en Égypte ou en Kabylie, qu'il avait dû se procurer auparavant, confirment comment il pratique des combinaisons à l'aide de tous les éléments qui le jugent appartenir à la vie primitive afin de produire la distance. C'est moi qui souligne. Des combinaisons, je souligne, produire la distance qu'il cherche à figurer d'avec une civilisation corrompue, écrit Pierre Dex. Une synthèse qui irait au-delà d'Ingres et même de Matisse. Et on pense au succès de scandale que Matisse a obtenu avec le nu bleu souvenir de Biskra exposé en 1907. C'est de ces révisions que naîtra au retour à Paris, fin août, et donc là le au-delà de Matisse renvoie avant 1907, c'est-à-dire essentiellement au tableau de la cage aux fauves, donc 1905, et dans la foulée, le bonheur de vivre, pour acheter immédiatement par les Stein. C'est de ces révisions que naîtra au retour à Paris fin août le visage masque du portrait de Gertrude Stein. Je suis désolé qu'on n'en voit rien. Hein. Mais d'autres étapes du même moment, comme ces deux nus, où finalement on pourrait dire que le même nu joue sous deux angles différents et qu'il y a un rapport avec le fond dans la façon que l'un des deux nus a de tirer un rideau qui en quelque sorte coïncide avec le plan de la toile. C'est assez intéressant parce qu'on peut mettre cela en rapport avec aussi des recherches que Matisse fait dans le même moment, et par exemple avec la sculpture des deux négresses. On peut aussi tout simplement suivre tout le travail d'Anne Baldassari dans son livre « Miroir noir » en confrontant le buste d'une femme nue de 1907, peint par Picasso, et une photo de femme malinquée. Ici, quelqu'un qui, pour avoir été la compagne de Picasso, n'apparaît pas souvent dans ses peintures, sinon sous des formes codées, ma jolie, j'aime Eva, puisque c'est au moment du cubisme le plus hermétique que Picasso a après Fernande a pour compagne Eva Gouel. On a ce dessin. Il est assez intéressant si on le prend comme élément de repère, un point d'ancrage, avant le tableau femme en chemise dans un fauteuil dont on a déjà parlé et dont je voudrais, si la lampe nous permet, sinon on passera par-dessus ce temps d'analyse d'œuvre pour rentrer dans ce que j'appellerais la méthode Picasso. Comment se fait un tableau de Picasso? Ce que la logique picturale commande, ce qui est donc inhérent à la pensée plastique, et que l'on peut distinguer d'une part, je dirais, plus conceptuelle, et qui parfois a faussé le propos sur l'œuvre de Picasso. Alors, bon, c'est passé par une bouillie brun, jaune, rouge, c'est la gouache préparatoire, c'est l'étude pour femme en chemise dans un fauteuil, 1913. Peut-être certains d'entre vous percevront le petit visage là-haut. Et dans la foulée, le tableau grand format, femme en chemise dans un fauteuil. On trouve parfois daté 13-14 et parfois uniquement 13. On va voir si les deux, c'était pas plus mal, même si le tableau dont je dirais et je maintiens qu'il est le plus rutilant apparaît ici complètement sacrifié. Plus j'insiste là-dessus, plus ma prestation va ressembler à un calvaire pour les responsables des prestations techniques dans la salle ici, mais on va essayer de ne plus en parler, on a admis cela. Mais ça vous demande un effort d'imagination. Alors, en comparant l'étude et le tableau réalisé, donc je maintiens qu'à droite, le chromatisme est plus sonore et somptueux dans le tableau que dans l'étude à la gouache, la configuration d'ensemble est identique. C'est une grande forme de conque, de coque ou de conque, qui est donnée par le fauteuil et qui enveloppe donc le corps. Mais on observe que l'étude préparatoire est plus naturaliste. Dans la restitution du fauteuil dans la partie inférieure, la traduction du visage et des cheveux ondulants de part et d'autre de celui-ci. Dans l'étude préparatoire, la chemise apparaît trois fois. En bas, vers le milieu, c'est le papier qui est un papier légèrement bistre, beige, et qui a donné donc ce ton beige qui apparaît ici comme un jaune curie ou autre, et qui apparaît donc au milieu à droite, et puis entre le visage et la poitrine. Avec le même motif simple de bordure festonnée. Alors que dans le tableau, la chemise n'apparaît qu'une seule fois en bas, avec un travail des valeurs marquant les plis et le motif de broderie anglaise. Alors remarquez d'ailleurs que le motif circulaire des jours brodés forme une rime plastique avec le nombril qui est à proximité, juste au-dessus du tissu ici. Il faudra se reporter dans les ouvrages. Le visage d'Eva, chétif minois dont la forme géométrique pointe vers le menton, est totalement transformé. C'est un triangle rectangle avec la base horizontale. Comme il est rectangle, donc il y a un côté qui est vertical à gauche, dont l'asymétrie est soulignée par celle de la chevelure. Ample ondulation verticale à gauche. Petite vaguelette horizontale entre le visage et le bras levé. À droite du triangle, vous avez le bras levé, extrêmement réinterprété. Dans le tableau, à droite, une acuité est apportée par des signes tels que le journal, les poils axillaires du bras levé, les mamelons. Le tableau final montre une relative autonomie de certaines parties dans le traitement en motif. Accoudoir, frange du fauteuil, chemise. Enfin, je voudrais attirer l'attention là-dessus. Dans l'esquisse, le fameux dédoublement nègre des seins était amené et justifié par des données de rythme et de structure curviligne. La grande courbe qui descend de la chevelure vers la poitrine et qui enchaîne avec la broderie de la chemise de bordure festonnée, avec la courbure des seins. Dans le tableau, ils n'ont plus besoin de cet appui pour exister pleinement et prendre valeur d'objet. Ce qu'on verrait mieux ici, un peu plus gros du moins. Cela a pu compter pour Breton dans la dialectique qu'il établit entre modèle intérieur et objet. Les seins deviennent-ils d'or parce que redoublés? La quantité, le nombre des seins faisant les carats. Les raisons plastiques indéniablement déterminantes dans la genèse du tableau ne semblent pas exister aux yeux de Breton. Picasso, surréaliste. Ici, tiré de la suite Vollard, modèle et sculpture surréaliste, encore intitulé Marie-Thérèse, contemplant son portrait ou sa sculpture, son portrait sculpté surréaliste. Picasso, surréaliste, a fait l'objet d'une importante exposition chez Beyeler, avec un magnifique catalogue et, à cette occasion, deux belles études d'Anne Baldassari. Quelques remarques liminaires. C'est dans ce moment, la période surréaliste, que Picasso reprend la sculpture, avec la collaboration de Julio González, qui l'initie au travail du fer soudé. C'est une période féconde. C'est la période de Boisgeloux, hein, du nom de cet atelier qu'il a installé en dehors de Paris pour y pratiquer la sculpture avec González, comme je l'ai dit, et aussi pour se trouver loin d'Olga. Ça correspond au moment de sa liaison avec Marie-Thérèse Walter. La sculpture, c'est bien l'art aux antipodes du surréalisme. Bon, il y a peut-être un autre, c'est la musique. La sculpture, l'art aux antipodes du surréalisme, n'était le recours à l'objet dans l'assemblage, équivalent tridimensionnel du collage. Alberto Giacometti est certainement l'artiste qui, à ce moment-là, rend viable l'idée même de sculpture surréaliste. Et Breton ne s'y trompe pas. Jusqu'à 1935, quand Alberto Giacometti voudra retourner face au modèle pour interroger le visage. Réponse de Breton, un visage, tout le monde sait ce que c'est. Le surréalisme, c'est le moment favori des énigmes. Et c'est aussi le moment pour Picasso de son amitié avec Paul Éluard. Amitié que rien ne viendra altérer. Même pas ce singulier portrait. Pierre Dex ne commente pas. Rabin, au contraire, voit dans ce tableau qui montre Éluard en femme à la peau verte, coiffée d'un chapeau ridicule et allaitant un petit chat, le signe d'une homosexualité latente ou refoulée chez Éluard, lui qui offrait volontiers son épouse Nouche à ses amis. Char ou Picasso. Picasso ayant même déclaré qu'il ne voulait pas laisser croire à Éluard que sa femme n'était pas désirable. Énigme, alors il y en a une ici, et je vous la propose pour exercer votre sagacité pendant les mois qui viennent, c'est le tableau La fenêtre ouverte de 1929. On arrive à une écriture de signes constituée comme des véritables hiéroglyphes. Pensez à ce pied doublé, dédoublé, traversé par la flèche, qui marque une direction vers la droite, moment d'ouverture de la fenêtre. Derrière la fenêtre, alors que le pied est en équilibre instable sur une sphère, et on voit bien les pages de commentaires que Jean Clair pourrait faire à nouveau là-dessus, comme il l'avait déjà engagé avec les équilibristes jeunes saltimbanques sur les sphères, et avec toutes les références dans l'âge classique et maniériste. Et en même temps, il y a, tout près des orteils, ce fruit posé sur le rebord, la lèche de la fenêtre. Et si on regarde bien, le pied qui est la partie supérieure n'est pas traité de la même façon, moins naturaliste. D'autre côté de la fenêtre, un visage simplifié. Non, ça n'est pas alors qu'il était très souvent codé, et surtout en 29 encore, ça fait moins de 2 ans qu'il a cette liaison avec Marie-Thérèse, il est encore mineur. Donc, non, ici, c'est, et d'ailleurs, c'est pas du tout le profil de Marie-Thérèse, même s'il y a enchaînement du front et du nez, comme Picasso le fait toujours pour Marie-Thérèse, on a ici quelque chose qui est très différent, avec en guise de cou une main en équilibre sur une autre boule, etc. Le chromatisme se retrouve dans des ateliers du même moment. Et puis il y a derrière cette église. Alors dans certains catalogues, on vous dit il faut davantage penser au clocher de Chartres plutôt qu'à Notre-Dame de Paris. La belle affaire, évidemment, ce n'est pas les clochers de Notre-Dame, ce n'est pas non plus ceux de Chartres qui sont asymétriques. Quelqu'un veut y voir plus juste en disant à cette époque-là, Picasso travaille rue de la Boétie dans son atelier, au-dessus de l'appartement occupé par Olga qui ne met pas les pieds dans son foutoir à l'étage au-dessus. Et donc c'est l'église, on prend un plan de Paris, c'est l'église Saint-Philippe du Roule. Sauf que l'église Saint-Philippe du Roule est une église néoclassique à fronton triangulaire. Donc, non, c'est autre chose. Là, il faut sans doute rentrer encore dans des éléments de biographie. Il y a de la place et il y a encore du pain sur la planche pour les chercheurs. Donc, vous voyez cette dimension d'énigme constante et que on peut ici encore la voir développée. Les portraits de Picasso en nombre chinoise, ombre portée, mais on sait que Picasso était photographe dès le début du siècle et qu'il a fait des photographies étonnantes, et notamment avec un autoportrait photographique par ombre portée de lui-même où son profil vient diviser par le milieu un de ses tableaux qui est derrière. En même temps, sur la partie gauche ici, vous voyez avec un graphisme quelque chose qui est très proche des sculptures en fil de fer 1930, hein, comme la première version pour le monument à Apollinaire, avec, et là ça n'apparaît pas dans la zone grise au-dessus du rectangle blanc, toute petite pastille noire sur gris qui est la tête. Et donc, à partir de là, on retrouve le schéma anthropomorphe de cette construction dans laquelle il faut voir une sculpture sur un socle. Et puis, il y a ces éléments absolument distordus dans la partie centrale et qui font l'objet d'une interrogation très intéressante pour l'histoire de l'art dans cette deuxième moitié des années 20. Avec le surréalisme, et d'ailleurs dans le propos depuis le primitivisme, et même encore avec les œuvres ultimes dont j'ai montré des images en début de séance ici, toute la réflexion esquissée ce soir est orientée vers la question du rapport entre la peinture et le réel. Peinture comme moyen de connaissance du réel, peinture comme moyen d'action sur le réel. Or, l'événement que constitue l'émergence du surréalisme au début et au milieu des années 20 affecte Picasso. Et l'on a vu que Breton enrôlait Picasso dans le surréalisme et le comptait en quelque sorte au nombre des précurseurs. Picasso revendique d'avoir été, avec Apollinaire, l'inventeur du mot surréalisme. Il revient sur ce point en juin 1945, dans un entretien. « Je tiens à la ressemblance plus profonde, plus réelle que le réel, atteignant au surréel. C'est ainsi que je concevais le surréalisme, mais le mot a été employé tout autrement. » Et l'année suivante encore, si le mot surréalisme n'avait pas été pris pour désigner un mouvement différent, je crois qu'il définirait ma peinture. La ressemblance plus profonde, plus réelle que le réel, atteignant au surréel. Et dans cette atteinte au surréel, on porte atteinte, excusez le jeu de mots, au réel qui se trouve déchiré. Je crois qu'on tient là l'opération même picturale, et au-delà même du pictural, de Picasso. Plus tard, quand Breton, trotskiste, veut minimiser l'importance de Picasso, membre du Parti communiste, Il dira ce dernier influencé par Miro et son entrée tumultueuse en 1924. Façon de déposséder Picasso d'un certain type de forme, des formes un peu ectoplasmiques, dont on en a un exemple ici linéaire dans le graphisme sur fond gris qui est au centre dans la partie supérieure du tableau et qui bien sûr renvoie aux crises hystériques d'Olga. John Golding a montré que l'ascendant est bien plutôt exercé par une découverte qui touche les deux artistes, celle de l'art néolithique. Et Pierre Dex de pointer la fusion entre ces nouvelles sources et l'expression de la vérité intime, du modèle intérieur, écrit Pierre Dex entre guillemets. Donc, fusion entre ces nouvelles sources et l'expression de la vérité intime du modèle intérieur et l'influence des hiéroglyphes de l'île de Pâques dans, je cite Pierre Dex, l'animalité des arabesques puissantes qui construisent l'abandon d'un corps de femme, telle par exemple « Femme dans un fauteuil » de 1927. Le thème se trouvera l'objet de nombreuses variations dans les années qui suivent. Et par exemple, femme en fauteuil dans l'année 1932. J'en ai enlevé un certain nombre. Le nu dans un fauteuil rouge, femme nue dans un fauteuil rouge, 1932. Femme à la fleur, où l'on voit que la forme rouge qui est au niveau du torse de la femme occupe la même région et à peu près la même configuration que le fauteuil, ce qui se vérifie par exemple dans Femme au fauteuil rouge, et vous avez trois modes de figuration la même année qui ressortissent à des objectifs picturaux différents sur le plan plastique. Vous savez que dans l'interview donnée dès le début des années 20, Picasso dit bien qu'une approche chronologique en termes d'évolution stylistique de son art n'a pas de sens. Il le dit en 1921-23 et pour cela, Picasso renvoie bien sûr aux premières peintures où il revient à la forme figurative observée mais transcrite avec des formations, etc., du réel tel que le peintre et son modèle dans la toile inachevée conservée au musée Picasso, 1914. Et puis ensuite, tout ce qu'il fait entre 1914 et 1920, et y compris, bien sûr, le travail pour Parade, ce qui vaudra d'ailleurs à Picasso d'être jugé comme l'auteur d'un retour en arrière, hein, et ce qui lui vaudra aussi d'être hâtivement et légèrement, j'ai dit en début de conférence, rattaché à ce mouvement qu'on appelle le retour à l'ordre. Retenons « modèle intérieur » que Pierre Dex met entre guillemets, car c'est la notion clé de l'esthétique de Breton quant à la peinture. Et c'est bien cette notion de modèle intérieur qui, dans les termes mêmes de Breton, peut pour une large part rendre compte de l'attitude foncière de Picasso. Il ne sera pas interdit de trouver des accents hegéliens dans cette page fameuse du livre « Le surréalisme et la peinture » 1928, hein, de Breton. Donc, je donne lecture de ce texte avec son emphase, mais en même temps avec sa précision et sa rigueur. « L'œuvre plastique se référera donc à un modèle purement intérieur ou ne sera pas. » On reconnaît bien sûr ici les déclarations de Breton. Modèle purement intérieur est souligné. Reste à savoir ce qu'on peut entendre par modèle intérieur. Si Lautréamont, Rimbaud et Mallarmé, dans le domaine poétique, ont été les premiers à douer l'esprit humain de ce qui lui faisait tellement défaut, je veux dire d'un véritable isolant, le mot est souligné, grâce auquel cet esprit, se trouvant idéalement abstrait de tout, commence à s'éprendre de sa vie propre, où l'atteint et le désirable ne s'excluent plus, et prétend dès lors soumettre à une censure permanente de l'espèce la plus rigoureuse ce qui, jusque-là, le contraignait, si vraiment ils nous ont décidé à attendre de nous seuls notre rédemption ici-bas, il a fallu, pour que nous nous jetions à corps perdu sur leurs traces, animés de cette fièvre de conquête, mais de totale conquête, qui ne nous quittera plus jamais, que nos yeux, nos chers yeux, chers et soulignés, que nos yeux, nos chers yeux, reflétassent ce qui n'étant pas est pourtant aussi intense que ce qui est. Et que ce fussent à nouveau des images optiques réelles, nous évitant de regretter quoi que ce soit de ce que nous quittions. Cette page est essentielle pour comprendre l'esthétique de Breton. Ah, la nature de ces images optiques réelles. On ne court pas grand risque à voir ici une position contre l'art non figuratif, bien sûr. Et valider Quirico ou Max Ernst. Mais aussi, j'ajouterais hélas, bien des petits maîtres de l'imagerie surréaliste. Quand Picasso disait « le mot a été employé tout autrement », si surréalisme n'avait pas été pris pour désigner un mouvement différent, Picasso, ailleurs, dit que ça a été pour donner la plus mauvaise peinture qui soit, la plus mauvaise poésie qui soit aussi. Comme si un paysage au clair de lune était forcément plus poétique qu'en plein soleil. Bon, donc Picasso a des mots très tranchés, absolument lucides là-dessus. Exit Delvaux. C'est le fond magique de Picasso qui l'a conduit à faire non seulement de l'art, mais de l'activité artistique, un tel isolant. Retenons l'idée forte de l'isolant, car elle désignerait bien l'opération effectuée de longue date par Picasso dans l'acte de peinture. À cette différence près, toutefois, que Picasso ne s'abstrait pas tant du monde qu'il ne l'affronte, se livrant, selon Anne Baldassari, à, je cite, un travail de fragmentation et d'infiltration de la réalité par le réel, et Baldassari souligne réel, à savoir ce qui se projette à l'intérieur des choses amorphes et les faits signes. Et signe est à nouveau souligné. Et effectivement, cette confrontation, dont on a vu tout à l'heure dans cette sorte de leçon de l'acte de peindre, plus que de leçon de peinture que Françoise recevait de Pablo, montre une prise avec le réel où celui-ci se trouve déchiré, on pourrait dire assumé. Je crois qu'on a touché ici sans doute le nœud de toute la recherche de Picasso, mais comme il l'a dit, on ne peut pas être sorcier toute la journée. En guise de conclusion, je proposerai ceci. On sait comme Picasso aimait à être entouré d'animaux. Il y a tout un bestiaire propre à Picasso, pigeon, singe, cheval, chouette, taureau, oursin, chèvre, mouton. Et j'ajoute ces monstres que sont les centaures, le minotaure. Ici, cette étonnante petite gouache faite en mai 1936, et comment début juin, Picasso reçoit la commande pour le rideau de scène d'une pièce qu'on monte en toute hâte pour fêter, c'est le premier 14 juillet après le Front populaire, donc le fêter le 14 juillet, Picasso fait exécuter par Luis Fernandez le rideau de scène. Picasso fait exécuter le rideau de scène, qui d'ailleurs se développe beaucoup plus, développe l'espace beaucoup plus au large autour des protagonistes ici, et où l'on découvre que le bâtiment qui est en marge à droite est en fait une ruine. Ce n'est pas bien grave pour les images qui vont venir, parce qu'elles sont toutes noires et blanches, je crois. À part une autre, c'est tout. Mais... Merci, Paul. Est-ce trop sollicité que de voir dans le recours à la fable, au mythe, par-delà l'âge classique, une remontée vers plus archaïque, vers un temps reculé où l'homme et l'animal n'étaient pas distincts, pour reprendre la définition du mythe que donne Claude Lévi-Strauss. Au milieu de la carrière de Picasso, la suite Volard fait revivre la fable. Les deux ensembles les plus développés au sein de cette suite sont l'Atelier du sculpteur et le Minotaure. C'est encore un moment classique, mais Picasso s'y livre personnellement. Par ses notations claires sur le cuivre gravé, comme parfois Rembrandt en son temps. Ce sont des eaux-fortes, parfois complétées par l'aquatinte, purement linéaires le plus souvent. Sculpteur au repos, numéro 1. Dans l'étreinte du sculpteur et du modèle, la contemplation se fait sur l'œuvre dans laquelle vous avez reconnu le portrait de Marie-Thérèse. La sculpture existe. Les versions en ciment, qui sont les originaux, on en a fait des répliques en bronze, des tirages en bronze, se trouvent au musée Picasso d'Antibes. Le Minotaure. C'est comme Arlequin, Picasso lui-même. Le Minotaure, c'est la pulsion vitale sans frein, la pulsion sexuelle. Son destin est tragique. Minotaure blessé, c'est un plâtre gravé au musée Picasso et qui est une pièce de l'exposition qui réunissait des œuvres d'antiquité sur le thème du taureau avec des œuvres de Picasso à la Fondation Giannada en 2003. Minotaure mourant. Regardez la frise de ses visages de jeune fille. Quand Minotaure est, comme Oedipe, aveuglé, il est conduit par la fille. Ce sont d'autres gravures, je ne les ai pas mis dans la sélection, elles sont admirables. Il y a donc une appropriation, bien sûr, du mythe, intimement liée au destin de Picasso, jusqu'au geste de celle qui effleure la toison du Minotaure au niveau de son échine. Celui qui peut, comme Poussin, affirmer « Je n'ai rien négligé » s'ouvre à la mélancolie. C'est à croire que Pierre Reverdy pensait à Picasso quand il jeta dans son bloc des années 40 la notation suivante. L'homme ne peut vraiment supporter de la nature que ce qu'il en a lui-même inventé. Pierre Reverdy, bloc-notes et agenda, 1942-1944. On pourrait trouver là l'explication de cette profusion de création. Paradoxe du mélancolique. C'est quand même une énigme, mais peut-être la plus forte. Que cette profusion, que cette façon de remplacer le monde tel qu'il est par son double tel qu'il sort des mains de potier, de céramiste, de sculpteur et du pinceau ou du burin, du graveur qu'est Picasso. Paradoxe du mélancolique. Je vous laisserai avec cette gravure que je trouve absolument admirable, Minotaure endormi, contemplé par une femme. C'est toujours dans la suite Volard. On perçoit à peine la tête de Minotaure, endormi, derrière la très belle naïveté de ce rideau à petites fleurs qui occupe la quasi-moitié de cette plaque, et ce profil très classique, mais pas seulement, de la femme qui veille ici. En 1933, nous sommes en 1933, il reste à Picasso 40 années à vivre. Quant à moi, il me reste à vous remercier.